Trainville PM. La voie est libre.
Dans un référendum.
They want to break it down. No, that's our answer.
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
Voici Luc Lavoie.
Ben, faut croire qu'il n'y en aura pas de prochaine fois avant un petit bout, parce que là, il y a un méga sondage qui est sorti, mon cher Luc. Et ce que ça dit, c'est que les Québécois sont à quoi?
23% se disent souverainistes, 23% se disent fédéralistes. Le reste, c'est-à-dire 54%...
Ni un ni l'autre.
Et je ne suis pas très étonné de ça en passant.
Moi non plus.
L'autre jour, je participais à une émission avec mon ami Gilles Duceppe. Et c'est Gilles Duceppe, un indépendantiste convaincu, qui l'avait dit, parce que moi, je venais de dire, tu vois, ce projet de souveraineté était porté. Le fer de lance, c'était la jeunesse, puis elle n'y est plus. Puis Gilles a dit, c'est vrai, je l'ai constaté, elle n'y est plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas de l'autre bord non plus. Ils ne sont pas fédéralistes, ils ne sont pas souverainistes, ils ne se décrivent pas comme ça.
Ils sont ni un ni l'autre.
Ça ne fait pas partie de leur dynamique politique à eux. On parle donc des jeunes de 18 à 24 ans, il y en a seulement 18% qui se disent souverainistes. C'est quand même un renversement par rapport à l'époque où le Parti québécois était en montée.
18%, Luc, des jeunes de 18-24 ans francophones.
Francophones, oui, absolument.
Juste 18%. Alors, c'est là que tu vois que, effectivement, les jeunes sont rendus ailleurs. Hein?
55% des Québécois vont plus loin. Ils croient fortement ou assez fortement que l'idée de la souveraineté est aujourd'hui dépassée. C'est quand même assez intéressant. La menace sur la langue française est encore un point sensible. Quand tu y touches, il y a 7 Québécois sur 10 qui croient que la langue française est menacée. Et ça, c'est en croissance, cette affaire-là. Alors, c'est intéressant.
Moi, je vais te dire, d'abord, je ne suis pas surpris de ces chiffres-là, là. Et puis, pour côtoyer des jeunes, parce qu'à un moment donné, tu as tes enfants, mais il y a les amis de tes enfants aussi.
Oui,
là.
J'ai vécu ça aussi, oui.
Et je vais te dire une chose. Tu sais, puis tu connais mon opinion sur la souveraineté, là. Moi, je n'ai pas changé d'idée. Mais non, les jeunes, qu'est-ce que tu veux, dans leur tête, d'une certaine façon, l'indépendance est déjà faite. C'est leur indépendance à eux, comme personne, qui est déjà faite. Le fait d'être un Québécois, puis même un Québécois francophone de nos jours, t'as aucune limite. T'es pas limité par ton statut. Or, c'était le cas il y a 50, 60 ans. Si t'étais un Canadien français, t'étais peu éduqué.
Beaucoup plus pauvre que les autres.
Voilà,
Pas d'accès aux grands emplois en haute direction des grandes entreprises.
Il y avait de la discrimination contre les Canadiens français. Il y en avait.
Écoute, on peut l'interpréter de toutes sortes de façons. Ouais. Discrimination, il y en a certainement eu un peu. Il y a eu aussi des questions structurelles, des questions... On était catholiques, les autres ne l'étaient pas. Il y avait toutes sortes de divisions qui faisaient qu'on...
On n'avait surtout pas d'éducation.
On n'avait pas beaucoup d'éducation. Et nos curés, qui emmenaient large, nous disaient que les professions qui étaient offertes pour nous, c'était d'abord curé, entrer dans les ordres, ou alors notaire, avocat ou médecin. That's it. C'était ça. Ils appelaient ça les professions libérales. Puis ils disaient, pour le reste, les Québécois sont pas bons là-dedans. Puis,
ben non, mais c'est pas reste, bon. Fallait rester sur nos terres.
Mais vois, moi, ça m'a rappelé un titre, puis ça fait pourtant longtemps, c'est en 91 que le magazine Actualité avait fait son cover avec un sondage de ce type-là. Et j'avais adoré, je sais pas qui avait fait le titre, mais le titre, c'était « Les Québécois sont des Canadiens non pratiquants ». En d'autres mots... Il n'y a plus au Québec de gens qui disaient « Ah, c'est le fun, on va aller en Ontario, on est chez nous, patati patata. »
Les Rocheuses,
Tout ça, c'est un peu parti. Pour un Québécois de nos jours, dire « Je vais aller voir les Rocheuses », il peut aussi bien te dire qu'il s'en va à Denver.
C'est la même chose.
Ceux qui disent qu'ils s'en vont dans l'Ouest, ça se peut bien qu'ils s'en aillent à San Francisco, là. Les jeunes ne conçoivent plus le monde avec les mêmes barrières, les mêmes frontières, les mêmes délimitations que la génération qui les a précédés.
C'est ça. Et ce qui est intéressant, tu parlais de la langue, il y a quand même encore un attachement à la langue et même il y en a 7 sur 10 qui pensent qu'elle est menacée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Québécois sont ni fédéralistes ni souverainistes et ils sont d'abord québécois. Il y en a 62% qui se définissent d'abord comme québécois ou uniquement comme québécois, alors qu'il y a 15 ans, c'était 50%.
Oui, mais tu vois qu'au Canada anglais, le même mouvement est en train de se produire, parce que ce sondage-là a touché toutes les provinces. Mm-hmm. Et ça me rappelle aussi une autre théorie qui était défendue, entre autres, par Jacques Attali, que j'aime bien, et qui est que plus on va avancer, plus notre attachement ne se fera plus à un pays, va se faire à une ville, à sa région. Je suis parisien, je suis montréalais.
Bien, on l'entend.
Je suis new-yorkais.
On l'entend souvent, Luc. On l'entend souvent dire « moi, je suis montréalais », là, on l'entend souvent, ben, ça.
Absolument. Et absolument. Puis c'est normal parce que Montréal, là, ça n'a pas grand-chose à voir avec Rimouski. Franchement, là, je dirais même que ça n'a pas grand-chose à voir avec Québec. Alors, moi, je suis montréalais d'abord. Si je veux le prendre dans cet ordre-là, je le suis montréalais d'abord.
Toi? Alors,
bien sûr que je suis montréalais.
Toi, tu te définis d'abord comme montréalais?
Bien sûr.
Oh, si ça, c'est intéressant.
Mais si quelqu'un veut savoir comment je pense, ben, je pense que je suis d'abord montréalais. C'est cette ville-là qui m'intéresse. Moi, je me considérais libre d'aller vivre ailleurs. Hein. J'ai déjà eu des offres pour aller travailler en Californie, puis j'ai passé un cheveu d'y aller, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Parce que moi, Montréal, c'est une ville effervescente, c'est une ville assez exceptionnelle à l'échelle de l'Amérique du Nord. Sur le plan des infrastructures, est un peu en mal d'amour, comme on aime dire, là. Mais ils ont l'air à faire beaucoup de travail, puis on est un peu tanné de ça. Mais c'est une ville qui est quand même pas mal plus intéressante que Pittsburgh, t'sais. C'est pas mal plus intéressant que Cleveland. T'sais, on pourrait en nommer plusieurs comme ça, le Montréal.
Oui. Tu vois, je veux juste revenir là, au fait que le mouvement souverainiste ou l'appui à la souveraineté diminue chez les plus jeunes. Les souverainistes voient ça puis ils se disent c'est un échec. C'est un échec, c'est notre incapacité à transmettre
aux plus
jeunes.
Au pire encore, Bernard.
Laisse-moi juste finir, Luc. Ils prennent ça pour un échec. C'est sûr que ça éloigne la possibilité de faire un référendum et de le gagner, mais c'est pas... Il faut pas verser dans le misérabilisme puis dans le défaitisme, parce que à bien des égards, la raison pour laquelle ça a reculé,
c'est que les combats ont été gagnés.
Et voilà.
C'est clair, ça. C'est clair, là. Et c'est là que j'ai tiré la ligne. T'sais, à un moment donné, on a gagné les combats qui faisaient de nous des citoyens de seconde zone, comme on se percevait. On les a pas mal tous gagnés. Puis après ça, ben là, ça devient « j'aime-tu le drapeau, j'aime pas le drapeau, j'ai-tu des larmes quand je le regarde, j'ai-tu gnagnant ». Non, c'est pas... C'est plus
et
ça.
Et les combats dont tu parles, c'était l'infériorité socio-économique.
D'abord, on a investi massivement dans l'éducation. Ensuite, on a...
Donc, l'égalité des chances. On s'est donné les moyens d'avoir une égalité des chances dans la vie, l'égalité d'être heureux.
Exactement.
C'est ça, là.
Ben oui, le droit à la recherche du bonheur, comme le dit si bien la Déclaration d'indépendance américaine.
Voilà.
Alors, on s'est doté de ça. On s'est débarrassé de l'Église qui dirigeait tout ce qui était moral dans cette société.
On s'est lancé dans le milieu des affaires. Ouais, donc, on a eu des modèles de patrons puis d'entrepreneurs. Ouais.
Ben oui, parce que l'Église, il faut l'avouer, là, ça vient d'un vieux fond de catholicisme. Pour eux, du profit, c'est un peu sale. Là,
ben,
on entend encore de ça au Québec. Là.
L'argent était sale.
Ouais, quand t'entends Manon Massé dire des garderies commerciales, ou ben non, quelqu'un qui t'appelle puis qui dit le privé en santé, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va faire du profit, ben voyons donc. Ben oui, il va faire du profit parce qu'il faut qu'il réinvestisse l'année d'après. Mais tout ça, on s'est débarrassé de ça. Le Québec est de facto, sur le plan psychologique, sociologique, indépendant. Et les gens le savent. Et ce qu'ils veulent plus, les gens, c'est se dire « Pourquoi je ferais tout un patatlan puis que je te brasserais toutes les structures? » Tu sais, dans ce sondage-là, il y en a un autre chiffre que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Il y a seulement 34% des Québécois qui pensent que le Québec ne reçoit pas sa juste part juste des contrats puis des subsides fédéraux. Juste 34%. Oui. Hey, autrefois, là, on me disait, on envoie notre argent à Ottawa, on n'en voit plus la couleur. Même ça, c'est en train de s'en aller.
C'est sûr que la péréquation...
Les gens doivent comprendre que si tu crois une forme de, je sais pas quoi, de survie de notre société pas mal unique en Amérique du Nord, ben c'est il faut que tu investisses massivement dans l'éducation. Massivement dans l'éducation.
Mais ça, on le fait.
On est en train de prendre du retard, pas à peu près, Bernard. Pas à peu près, là.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben écoute...
Quand on a décidé d'investir, de créer un système public d'éducation...
On n'a pas des universités du calibre de celles qu'on retrouve ailleurs. dans des pays aussi avancés que ce qu'on veut être. Bon, on n'a pas ça. On a des bonnes universités, mais ils n'ont pas assez d'argent. Non, il n'y a pas de laboratoire de recherche qui se compare à ceux des grandes universités.
Ben là, là, franchement.
Non, c'est vrai, Bernard, je ne le dis pas pour dénigrer l'université.
L'Université de Montréal est l'une des universités qui fait le plus de recherche et développement, là.
Oui, d'accord, mais, ben, oui, mais quand ils font les listes, quand ils font les listes internationales des meilleures universités, les universités francophones du Québec arrivent au 110e.
Oui, mais tu regardes qui?
Oui, bien sûr que je commence par Cambridge, puis Oxford, puis Harvard, puis
c'est le monde anglo-saxon. C'est le monde anglo-saxon qui domine ce palmarès-là.
Non, je retrouve toujours Normalsup en France dans les meilleurs. Je retrouve toujours la Polytechnique française dans les meilleurs.
L'Université de Montréal
Je retrouve toujours l'Université de Zurich parmi les meilleurs.
L'Université de Montréal, Luc, a fait le top 100 à un moment donné dans un de ses palmarès.
Mais tu comprends ce que je veux dire. Je suis pas en train
de Je comprends ce que tu veux dire.
Qu'il faut quasiment être meilleur que les autres. On est minoritaire, là. Puis on ne peut pas se permettre d'être trois pas en arrière des autres. Il faut qu'on soit au moins aussi bon, si possible, meilleur. Puis il faut que ces études-là se fassent en français pour qu'on apprenne à l'utiliser dans le quotidien, dans les sciences, dans tout. Mais pour ça, là-dessus, j'appuie François Legault à 100 %
Okay.
L'éducation et toujours plus d'éducation.
D'accord. Mais là où je te rejoins, c'est quand tu dis « notre statut de francophone en Amérique nous oblige à être meilleurs », là, je te l'accorde. Ça nous oblige à être meilleurs.
Ben, c'est la rançon de tu sais, c'est ça être un minoritaire. On est minoritaire, pas au Canada, on est minoritaire à l'échelle de l'Amérique du Nord.
Voilà,
dans la tête des jeunes dont on parle beaucoup, ces frontières-là sont devenues quasiment superflues, tu comprends? Les autres, ils voient le continent.
Et donc, il faut leur faire la preuve que le fait d'être francophone...
Les sert bien.
Ça peut être gagnant dans notre monde d'aujourd'hui.
Et fait de leur ville une ville différente, une ville unique, une ville qui fait l'amalgame entre l'Europe et l'Amérique. Quand les jeunes comprennent ça, ils aiment ça. Montréal
pas juste
est
de
une
leur
ville très agréable.
Pas juste de leur ville. De leur ville, de leur vie, de leur carrière.
Ah oui, bien sûr, ça, mais ça va tout ensemble. Ça va tout ensemble.
OK, on s'arrête. Au retour, on va se parler corruption.
Drainville PM. La voix est libre.
Alors, mon cher Luc, juste avant de parler de corruption, je vais annoncer à nos auditeurs le gagnant, puisque c'est un gagnant, qui va nous accompagner dans la loge la semaine prochaine pour le match contre les Panthers. Alors, tu seras là.
Je serai là.
Tu seras là. Michel Barrette sera là également. Alors,
t'es pas obligé de venir, Bernard. T'es pas obligé de venir.
On va avoir plein de plaisir, mon Luc. On va avoir plein de plaisir. Alors, les gens ont participé en très, très, très grand nombre. C'était vraiment une grande réussite. Et c'est finalement Dominique Bourdage de Saint-Jérôme, donc, qui a gagné le billet gagnant, si on peut dire. Donc, M. Bourdage, les gens de Cogeco vont entrer en contact avec vous et vous serez avec Luc, Michel et moi-même pour le match de mardi prochain contre les Panthers. Félicitations. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce concours qui a été très populaire. Hein? On a hâte?
Ben, on a hâte.
Surtout que là, on fait les séries, mon chum. Là. On fait les séries, là, parce qu'on a gagné hier soir.
On est juste là, par la peau des fesses.
On est là, par un point.
Mais ça veut dire qu'il faut gagner, il faut continuer de gagner. Il faut continuer de gagner, parce que là, Columbus nous a aidés
en
perdant contre les Oilers d'Edmonton.
C'est ça.
Il faut qu'on continue. Ils ont tellement bien joué.
Non, mais on joue bien. Hier, on a mautaditement bien joué. Puis Jonathan a marqué un but, puis il a fait une passe.
Oui, c'était un beau but, d'ailleurs.
C'est un magnifique but. Bon, OK, on referme la parenthèse parce qu'il nous reste quelques minutes pour parler de cette étude de l'OCDE qui dit essentiellement ceci, puis on en a beaucoup parlé dans toute l'histoire de SNC-Lavalin. Ceux qui pensent que les accords de réparation, là, dans le fond, c'est moins sévère que les jugements des tribunaux, ben les faits démontrent le contraire. Les accords de réparation, de façon générale, sont beaucoup plus sévères pour les entreprises corrompues que le sont les jugements.
Voilà. Et même des chiffres qui sont frappants. Il y a des fois où il y a des cas de corruption qui sont allés à procès. C'est le cas d'une firme italienne qui s'appelle Saipem. Elle est allée en procès, condamnée à 29 millions de dollars d'amende. C'est beaucoup, mais attention, en comparaison, la plus importante pénalité découlant d'une entente non judiciaire, c'est-à-dire entente de réparation, s'est élevée à 3,5 milliards de dollars. Et un autre, si on veut prendre le cas de Siemens, 1,6 milliard de dollars. Et dans les 10 qui ont payé le plus cher, c'est une moyenne de 400 millions de dollars. Et quand on regarde les cas où les accords de réparation ont été appliqués aux personnes morales, on veut dire par là aux entreprises, là, parce qu'il y a certaines lois en Europe qui permettent d'utiliser ce mécanisme-là pour les individus aussi. C'est pas le cas au Canada, c'est pas le cas dans la plupart des pays. Mais là où c'est le cas, là où il y a seulement les personnes morales, où il y a seulement des personnes morales d'impliquées, 91% se règle de cette façon-là. Et ouais, la raison est pourtant facile à comprendre. C'est que d'une part, tu sauves les emplois, d'autre part, le Trésor collecte plus d'argent. Troisièmement, on dispose des moyens de s'assurer que cette corruption-là va disparaître de la culture d'entreprise parce qu'on peut exiger le départ d'un certain nombre de dirigeants,
exact,
de membres du conseil d'administration.
Ça serait le fun, hein, que cette entente-là circule un petit peu dans le reste du Canada
qui ne veut pas comprendre parce que ils se sont trouvés une héroïne qui s'appelle Wilson Raybould, puis elle se tient debout, puis elle a des principes. Mais moi, je te prédis qu'à un moment donné, ça va faire l'effet d'un élastique. Ça va leur venir d'en face parce que c'est pas vrai. Là, cette femme-là, ce qu'elle a démontré jusqu'à maintenant, c'est une absence de loyauté, c'est une absence de fidélité, c'est une absence de solidarité avec le Conseil des ministres. Donc, une personne qui n'était certainement pas qualifiée pour occuper un poste aussi important que celui qu'elle occupait au gouvernement. Et ça, je veux dire, un jour ou l'autre, ça va la rattraper. C'est pas vrai, tu sais. On pense au regretté Gérald Godin. Tu te souviens qu'il avait fait la job sale à Parizeau en 1987, après le décès de René Lévesque?
Il a fait la job sale à Pierre-Marc Johnson.
À Pierre-Marc Johnson, excuse-moi.
Pour Parizeau, ouais, oui.
Pour Parizeau. Ça.
Exact.
Ben, Gérald est décédé, je le connaissais, comme tu sais, c'était un gars formidable, Gérald Godin,
ben
un poète
ben
et
oui.
tout ça.
Ben oui.
Mais quand il est décédé, là, ça n'avait jamais été avalé par beaucoup de monde, ça. Ça avait servi les intérêts du parti, ça l'avait ramené au pouvoir avec Parizeau en 94, mais les gens n'aiment pas les paniers percés. Les gens n'aiment pas les petites espèces de rapporteurs, puis les persifleurs, puis ceux qui n'ont aucune loyauté, puis aucun... Et tôt ou tard, ça les rattrape. Sur le coup, là, c'est mon héroïne!
Oui, oui, je comprends.
Pense-y une minute, là.
Oui, oui, non, mais c'est intéressant. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai surtout hâte de voir qu'est-ce que Trudeau va faire avec elle puis avec Mme Philpott.
C'est le temps qu'il est sac dehors.
Il continue à donner des entrevues puis à dire, dans le fond, qu'elles se disent libérales, mais elles font mal à la marque libérale. Puis là, je fais pas de la politique partisane. Moi, je suis un peu comme toi. La politique, c'est un sport d'équipe.
Oui,
à un moment
oui.
donné, t'es dans l'équipe. Ben,
faut que tu prennes la chaleur un peu.
Tu prends chaleur, puis tu peux pas tirer dans le dos à un moment donné de tes coéquipiers constamment. Puis, tu sais, si t'es plus capable de vivre avec l'idée que t'es en équipe, ben, sac ton camp de l'équipe.
Tu démissionnes, puis tu fermes ta gueule, en plus.
Mais ils veulent se faire mettre à repote parce qu'elles veulent se servir, justement, de leur expulsion pour devenir
des martyrs.
Des martyrs, voilà. C'est ça le calcul.
Ben, alors, ce que cette étude-là démontre, c'est que c'était la voie à suivre. Puis, je comprends pas comment les gens peuvent penser que c'était illégitime que d'y avoir parlé, puis d'y avoir dit, hey, oublie pas ça.
Espérons que ça finira par arriver, cet accord de réparation. OK, ben Luc, je te souhaite un bon week-end.
Toi de même.
Hein, belle fin de semaine. C'est Christian Page qui s'amène avec les mythiques complots dans... Oh, Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur.